Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus 88.3. Nous sommes aujourd'hui le mardi 28 février. Nous sommes allés au lycée Jean Zay où se déroule ce soir une conférence intitulée « Grandeur et décadence du capitalisme » organisée par l'association Philomania. C'est la dernière conférence d'un cycle de conférences organisé par l'association qui anime par ailleurs des ateliers débats dans la maison des lycéens du lycée Jean Zay.
Juste une petite remarque. Grandeur et décadence de l'utopie capitaliste.
Merci. Et donc, cette rectification vient d'être formulée par Dany Robert Dufour, donc l'invité, l'animateur de cette conférence. Dany Robert Dufour, philosophe français contemporain, professeur de philosophie de l'éducation à l'Université Paris 8 jusqu'en 2015. Il a été ancien directeur de programme au Collège international de philosophie de 2004 à 2010 et ancien résident à l'Institut d'études avancées de Nantes en 2010-2011. Il enseigne régulièrement à l'étranger, en particulier au Brésil, Colombie et au Mexique. Il collabore régulièrement à des activités artistiques, littérature, musique, théâtre, nous y reviendrons plus tard, collaborant notamment au spectacle Bleb de Michel Schweizer. Son travail porte principalement sur les systèmes et les processus symboliques et se situe à la jonction de la philosophie du langage, de la sémiologie, de la philosophie politique et de la psychanalyse. Vous avez accepté l'invitation de l'association Philomania pour animer dans la maison des lycéens du lycée Jean Zay cette conférence intitulée « Grandeur et décadence de l'utopie capitaliste ». Pourquoi avoir accepté cette invitation dans ce lieu qui favorise la rencontre avec les jeunes ?
Mais écoutez, votre question contient la réponse. C'est pour rencontrer les jeunes. Voilà. En fait, vous savez, j'ai été donc directeur de programme pendant 6 ans au Collège international de philosophie, qui est une belle institution qui a été créée par d'éminents philosophes comme Derrida, enfin, qui sont morts maintenant, et d'autres, pour cesser de faire de la philosophie entre soi, pour amener la philosophie dans la cité. Il n'y avait pas de conditions d'accès pour suivre des cours, des séminaires au Collège international de philosophie. Venez qui voulait venir sans condition de diplôme. Si bien que des gens qui étaient passionnés par une question, par un conférencier, par un prof, pouvaient venir suivre son travail pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 6 ans. Et ramener avec eux ces questions dans la cité et amener aussi avec eux donc un certain nombre de questions qui étaient relatives à leur pratique sociale, leur pratique culturelle, leur pratique politique, enfin bon, tout ce qui fait qu'ils étaient porteurs donc de ce qu'ils témoignent, de ce qui se passe dans la cité et qu'ils avaient envie d'en discuter avec les philosophes. Donc ce que je fais ce soir s'inscrit dans la droite ligne de ce travail. Ça ne veut pas dire que je ne fais que ça. J'ai des moments où je suis très concentré sur un travail proprement philosophique. Là, je ne sors pas de chez moi, je travaille sur des questions, je relis des livres, y compris des livres qui ont été complètement oubliés, on en parlera tout à l'heure, mais qui me semblent importants pour justement essayer de les porter, de porter les questions qu'ils ont ouvertes vers un public qui pourrait s'y intéresser. Parce que notre monde est traversé, comme vous le savez, de quantités de problèmes. Ça ne va pas en s'arrangeant. Ce sont des problèmes civilisationnels, moraux, écologiques, politiques, je dirais, etc. Et donc toutes ces questions intéressent vivement les philosophes.
Vous avez parlé justement de sortir de l'entre-soi. Que va vous apporter cet exercice justement d'aller à la rencontre, comme l'exemple que vous nous avez donné, à la rencontre, entre guillemets, du peuple, enfin des gens, tout simplement, pas du peuple, sans guillemets, voilà, des gens.
Écoutez, je pense que les gens, comme vous dites, portent avec eux un certain nombre de sentiments sur ce qu'ils font, sur ce qui se passe, sur ce qui les affecte, sur ce qui les travaille. Et donc, je suis donc tout à fait attentifs à ce qui nous amène, parce que je ne peux pas le trouver par moi-même tout seul. Il faut que je sois à l'écoute. Donc il y a différentes façons d'être à l'écoute. Si j'étais par exemple psychanalyste, je connais bien le champ, la question, etc., mais ça n'a pas été mon choix de vie, j'écouterais des gens allongés sur le divan et qui amèneraient les questions qui détravaillent, qui ne sont pas simplement des questions personnelles, mais qui sont des questions personnelles qui ont émané de leur vie, de leur vie sociale, de leur vie professionnelle, etc., de leur vie amoureuse. Et comme je ne suis pas psychanalyste, j'ai deux solutions. Je discute beaucoup avec les psychanalystes pour leur demander « Et toi, qu'est-ce que tu entends sur ton divan ? Dis-moi » et je suis bien payé en retour parce que je suis souvent invité par les psychanalystes pour leur faire des présentations où j'essaye de leur dire ce que je pense des symptômes que eux ont entendu sur le divan, qu'ils me répercutent et que j'essaye de réélaborer pour leur apporter un certain nombre, disons, d'angles d'attaque par rapport à des symptômes nouveaux qui pourraient arriver. Ça se passe avec les psychanalystes, mais de façon générale, j'aime entendre des gens qui sont pris dans de tout venant, qui sont pris jeunes, moins jeunes, qui sont pris dans les questions actuelles qui nous travaillent tous. Donc je fais des allers-retours entre la grande philosophie, je suis un grand lecteur de Platon, je suis un grand lecteur de Kant, etc. Et en même temps, quand j'ai fini l'élaboration que je crois avoir pu faire, je vais en discuter avec, je vais présenter un certain nombre de questions, donc ces questions élaborées, avec les gens que j'ai pu rencontrer, comme je vais le faire ce soir.
La philosophie entre tardivement au programme des élèves à partir de la terminale et n'est proposée qu'à celles et ceux qui ont réussi à atteindre ce niveau d'enseignement. Qu'en pensez-vous ?
Oui, je pense que je ne suis pas du tout d'accord avec cette entrée tardive en philosophie. Il se trouve que j'ai travaillé avec une jeune pédagogue, j'ai beaucoup travaillé dans le champ de la philosophie d'éducation, qui avait entamé un travail de thèse avec moi, qui n'a pas mené à terme, mais qui travaille dans des classes d'accueil pour élèves en rupture d'école, y compris dès la 6e, 5e, 4e, etc., qui étaient en grande difficulté. Des grandes difficultés à suivre, qu'on appelle des décrocheurs. Il faut tout le temps essayer de réaccrocher parce qu'ils n'arrêtent cesse de décrocher. Et dans les classes d'accueil qu'elle avait mis en place, elle a pris une orientation philosophique avec ses élèves, ce qui est quand même très paradoxal, c'est des décrocheurs. Avait intitulé une année où elle avait travaillé, elle avait enregistré tout son travail, j'avais participé à donc son travail pour donc une espèce de supervision par rapport à ce qu'elle faisait. Et elle a appelé ça, c'est un très beau film qui existe encore maintenant, pour les gens que ça intéresserait, qui peuvent le trouver, ça s'appelle Socrate dans la cité. Et elle montre comment elle travaillait avec ces jeunes décrocheurs, qui contre toute attente avait de grandes questions philosophiques et comment au bout de 6 mois, 1 an, il réussissait à réaccrocher par rapport au décrochage scolaire dans lequel ils étaient partis. Donc voilà un exemple qui est un exemple assez paradoxal parce que c'est pas les meilleurs élèves de 5e, 6e, c'est les plus mauvais. Et la philosophie permet à cela d'approcher un certain nombre de questions qui n'approchent avec personne d'autre. Et donc, qui sont des questions vives, des questions existentielles pour eux. Et donc, d'essayer d'en faire quelque chose avec quelqu'un qui les écoute. Vous voyez c'était une expérience fort intéressante. J'aurais pâti un film.
Donc Socrate dans la cité, ça m'amène à une autre question à laquelle j'avais pensé. Questionner, douter. Penser par soi-même, interroger, remettre en cause, faire dialoguer la pensée. Est-ce que la philosophie ne représente pas un danger pour notre société? Est-ce que la philosophie n'est pas subversive, en fait?
Ah ben ça, on le sait depuis Platon. Depuis Platon et Socrate. Puisque je parlais de Socrate dans la cité, mais Socrate dans la cité antique, le vrai Socrate, a été accusé de pervertir la jeunesse en lui faisant se poser un certain nombre de questions que les jeunes de la cité grecque n'auraient pas dû se poser. Il l'a payé de sa vie. Donc depuis d'origine, la philosophie, justement parce qu'elle ose aborder ce qui, dans la doxa, comme disait Socrate et Platon, ne doit pas se poser puisque c'est l'opinion toute faite, et l'opinion toute faite doit se donner avec des affirmations toutes faites, non démontrées. Le travail de Socrate, c'était d'interroger justement ces représentations toutes faites pour dire « Pourquoi dites-vous cela? Pourquoi pensez-vous cela ?» Et le malin plaisir de Socrate, c'était donc de démonter ses opinions toutes faites pour essayer de montrer qu'elles ne tenaient pas véritablement debout. Et qu'il fallait donc commencer par penser par soi-même pour essayer de construire d'autres réponses.
Je vais rebondir sur pervertir la jeunesse, le mot pervers, qui a plusieurs sens. Alors moi, je n'ai lu qu'un de vos ouvrages, c'est Baisse ton prochain, une histoire souterraine du capitalisme. Est-ce que vous pourriez nous préciser les sens que vous attribuez au mot pervers? Parce qu'on peut penser à une personne qui se plaît à faire le mal ou à l'encourager, ou alors à une personne dont les instincts sexuels se manifestent par un comportement anormal. Et quand vous parlez du travail de perversion de la jeunesse de Socrate, on n'est pas dans ces deux définitions-là, on est plutôt dans détourner du sens, pervertir. Alors moi, je mettrais, d'un point de vue...
subvertir.
Voilà, oui.
Mais dans les premiers cas que vous mentionnez, ce n'est pas dans ce sens subvertir que j'emploie, c'est dans le sens pervertir au sens, par exemple, freudien, des perversions sexuelles. Par exemple, il avait beaucoup travaillé sur la psychologia sexualis de Krafft-Ebing pour essayer de serrer toute une série de déviations sexuelles. Ce que j'essaie de montrer, donc, bien après Freud, je ne sais pas si j'y parviens, parce que c'est un champ que, avec quelques autres, j'essaie d'explorer, qu'il n'y a pas simplement des perversions sexuelles, il y a des perversions sociales aussi. Il y a
d'accord.
Une psychopathologie sociale qu'il faut étudier, parce que je crois qu'elle est au cœur, j'essaie de le montrer, elle est au cœur du système dans lequel nous vivons depuis trois siècles. J'ai essayé de montrer à partir de la lecture de textes de quelqu'un dont je vais parler ce soir, qui s'appelle Bernard de Mandeville, qui était un médecin de l'âme, comme on disait à l'époque, ce qui aujourd'hui on dirait psy, qui, d'une façon étrange, s'est posé des questions sur, non pas simplement le fait de sortir les gens de troubles dans lesquels ils étaient, comme on disait à l'époque, les troubles nerveux, ce qui a donné névrose, mais qui s'est posé un certain nombre de questions, pour se dire, voyons, si je peux sortir les gens des souffrances morales ou psychiques dans lesquelles ils sont, y a-t-il un moyen de faire en sorte qu'il y ait un remède, pas simplement pour l'individu, mais pour le collectif? Et il a trouvé un remède tout à fait étonnant, dont je vais parler ce soir, qui est utiliser les perversions des individus pour, justement, de façon très paradoxale, c'est complètement paradoxal et c'est complètement contre-intuitif, utiliser des pulsions, par exemple d'avidité, pour donc faire en sorte que dans la société, des gens aient une emprise sur d'autres, donc on retrouve la perversion, pour leur imposer un certain nombre de conditions qui leur permettaient d'avoir mainmise sur ces individus et d'en tirer des profits. Et ceci crée donc des poches de richesse et le raisonnement qu'il faisait, c'était il faut qu'il existe des poches de richesse pour que le commerce marche, parce qu'ensuite, il faut que ces gens dépensent ces poches d'argent et ça fera marcher le commerce. Donc, si un juge, par exemple, un peu pervers, justement, pour reprendre ce terme, arrange les affaires avec ses justiciables en prélevant une commission en passable, en disant « toi, je vais arranger ton affaire si tu me donnes quelque chose », ce juge, au bout d'un certain temps, va accumuler donc un certain nombre de commissions illicites, mais va se retrouver à sa tête une somme forte, et dont il devra bien faire quelque chose. Par exemple, je ne sais pas, se construire une belle maison faite par un bon architecte, donc ça va faire travailler l'architecte. Ensuite, bien décorer la maison, donc ça va faire travailler les décorateurs, les tapissiers, etc. Ensuite, amener des artistes pour faire des jolis tableaux afin de décorer sa maison. Et donc, ça va faire travailler là, etc., etc. C'était ça le raisonnement de Mandeville, qui est un raisonnement d'usage des troubles pervers au profit du bien commun. Ça, c'était donc l'hypothèse qu'il soutenait. Je vais un peu développer ça ce soir. Mais voilà, par exemple, un usage actuel, un usage, de la perversion, et il passait en revue tous les vices privés possibles, comme il disait, c'est son expression, les vices privés.
Vous nous parlez de perversion psychosociale. Hein.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, comme Mandeville est un psy, comme je l'ai dit, il s'interroge en tant que psy en disant, voilà, comment on peut rendre utile des gens qui sont soit réprouvés dans des classes scélérates, parce que, ils cherchent la satisfaction immédiate de leurs appétences. Donc comment on pourrait utiliser ça au profit du bien commun. Alors, pour cela, donc c'est pas dans cette première classe de lumpenprolétariat qu'on s'appellera plus tard à l'époque de Marx, lumpenprolétariat chercher. C'est parce que situation dans laquelle se trouve Mandeville crée en fait deux classes. Il y a ceux qui n'obéissent pas donc à l'idéal qu'il donne à tout le monde, c'est une affaire un peu complexe, parce que ce qu'il dit Mandeville, c'est que il faut payer les gens pour qu'ils se mettent dans une position vertueuse. Mais comme on n'a pas d'argent pour les payer, il faut les payer en parole, il faut les flatter.
Oui,
il faut les flatter.
Oui. Ça coûte rien.
Et voilà, ça coûte rien. Vous êtes formidable, vous êtes vertueux, etc. Alors, ça crée deux classes. Il y a ceux qui n'y croient pas, c'est donc le lumpenprolétariat. Il y a ceux qui y croient, c'est la classe...
Les honnêtes gens.
Les honnêtes gens comme vous et moi. Et puis, il y a une troisième classe qui tire de la première classe, donc la classe vile, ce goût de l'avidité, de l'appétence, etc., mais qui se comporte comme la seconde classe en s'affichant vertueux. Et c'est cela que Mandeville appelle « il faut utiliser the worst of them », les pires d'entre les hommes. Et les pires d'entre les hommes, c'est ceux qu'on appellerait effectivement aujourd'hui les pervers. Donc il propose un usage social de la perversion, et c'est ça qu'on trouve étrangement chez Mandeville à la base du développement du capitalisme. Je rappelle que Mandeville, quand même, c'est donc ses premiers traités, c'est 1714, on est en plein dans la première révolution industrielle anglaise. C'est là que va naître le capitalisme, justement. Il repère justement comment ça se construit Mandeville, parce que il a à la fois une dimension psy où il repère donc l'usage des passions et une dimension économiste en se disant qu'est-ce que ça peut produire comme richesse, donc supposément pour tous, puisque ça va créer de la richesse pour tous, mais en fait ça ne crée pas de la richesse pour tous, ça crée de la richesse pour quelques-uns, on le sait bien maintenant, puisque on sait que 1% de la population aujourd'hui possède autant, deux fois plus que 90% de la population restante. Donc le résultat de ce système au bout de trois siècles, c'est quand même pas la richesse pour tous, c'est quand même un nombre d'inégalités considérables, quoi.
Il y a Nicolas Deray qui vient de nous rejoindre. Alors juste pour le présenter rapidement, il est agrégé de philosophie, professeur au lycée Jean Zay et chargé de cours en éthique du soin à l'Institut de soins infirmiers, l'IFSI, d'Orléans. Le public de Philomania apprécie notamment les conférences qu'il met en place. Et voilà, alors vous avez une question.
Une question par rapport à ce que vous avez dit à l'instant. Si avec Mandeville, on estime que... ce sont les passions humaines qui sont à l'œuvre dans la construction d'un prétendu bien commun. Quelle alternative au capitalisme serait encore possible? C'est-à-dire que si on anthropologise, comme Mandeville le fait, comme vous l'avez rappelé, ce jeu des passions et de l'avidité, en gros ce calcul égoïste, ça laisse à penser et à croire que le capitalisme serait le seul horizon de notre temps. C'est-à-dire que ça serait le système social et politique qui serait le plus à même, finalement, d'épouser la nature humaine. Et que toute autre forme de construction politique, socialiste, communiste, ou aujourd'hui, écologiste au sens propre, serait vouée à l'échec parce qu'elle ne correspondrait pas à cette nature même de l'homme.
Alors, vous savez, le capitalisme a très très bien marché pendant 3 siècles. C'est-à-dire que depuis la première révolution industrielle où il est né jusqu'à maintenant, donc c'est le système qui a réussi à triompher de tous les autres. Bon, donc pourquoi a-t-il triomphé de tous les autres? Très probablement parce qu'il a su utiliser les passions humaines que autrement on doit réprimer. Et lui, au lieu de les réprimer, il les a, d'une certaine façon, utilisées pour... développer ce qu'il appelle le bien commun. Mais en fait, il n'y a pas de bien commun qui est développé parce qu'il n'est pas commun, justement, ce bien. Alors, donc, ça pose une grave question. Est-ce qu'on est voué au capitalisme et est-ce qu'on peut pas... Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'en sortir? Puisque tous les autres systèmes qui se sont proposés, bon, les socialistes, social-démocratie, communisme, etc., sont en grande difficulté donc ne se sont pas imposés comme des alternatives viables. Alors, ce qu'on repère de nouveau, et c'est peut-être là que je peux essayer de répondre à votre question, c'est... qu'on voit maintenant les conséquences de ce système qui a si bien marché pendant 3 siècles. Les conséquences, on les voit depuis longtemps probablement, mais de plus en plus depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. C'est que ce système détruit le monde. Et nous avec. Et ça, c'est quand même un petit problème qu'il va falloir résoudre. Ou alors, on disparaît.
C'est ça, Donc, pessimiste en fait, d'une autodestruction.
Oui, alors soit il y a autodestruction, ou alors c'est possible. On en parle. C'est pas personne n'en sait rien. On s'interroge pour savoir si dans 2 ou 3 générations, un monde viable habitable par les humains. Personne n'en sait rien. Mais c'est quand même ça, une dimension nouvelle. C'est-à-dire qu'avant, on ne connaissait pas les contradictions du capitalisme. Ou si on les avait explorées, les contradictions du capitalisme, comme Marx, par exemple, les a explorées, il pensait que ces contradictions internes étaient suffisantes pour autodétruire le capitalisme. Or, le capitalisme, au contraire de ce que Marx a prévu, s'est nourri de ses propres contradictions en repoussant toujours plus loin donc les effets sur lesquels cela s'appuyait, c'est-à-dire les individus et les matières qu'il fallait, la transformation de la Terre autant de lieux d'exploitation possible pour la production de richesses. Donc il a repoussé toujours ces conditions et il a pu toujours triompher de ses propres contradictions. Mais celle-ci n'en triomphera pas. Ou alors, s'il continue sur sa lancée, c'est nous qui allons le payer très très cher. Donc il va bien falloir trouver une alternative. Et il va bien falloir sortir de ce système, puisque cette fois, la contradiction, elle ne se situe plus dans les conditions économiques, les conditions financières, les conditions humaines, les conditions sociales, mais dans les conditions même écologiques, c'est-à-dire de l'équilibre des systèmes qui nous permettent de vivre sur Terre. Donc il va bien falloir... Ça, cette fois, il y a une vraie contradiction, de laquelle le capitalisme ne pourra pas se sortir comme ça. Donc il devra bien se passer quelque chose. Quoi ? Je n'en sais rien. Mais il devra bien se passer quelque chose. Enfin, on a trouvé la contradiction sur laquelle le capitalisme, la condition absolue, réelle, si je puis dire, parce qu'elle est réelle, c'est le monde réel, sur quoi le capitalisme bute, est en train de buter.
Est-ce qu'on ne gagnerait pas justement à poursuivre ce travail que vous avez entamé de critique du capitalisme en allant voir justement, en allant analyser son histoire ?
Oui. Alors... J'étais extrêmement intéressé par tout le nouage qu'ils ont essayé de faire entre Marx et Freud, en gros, c'est-à-dire entre le champ social et le champ des passions. En même temps, ce que je constate, c'est que malheureusement, ça a échoué. Il y a eu un échec de l'école de Francfort sur cette articulation. Donc... ça me désole plutôt parce que je me sens du même côté
oui.
qu'eux. Et donc, d'une certaine façon, venant une cinquantaine d'années après eux, je reprends les choses, les problématiques dans lesquelles ils étaient, mais en essayant d'y trouver d'autres biais d'entrée, d'autres façons d'entrer dans leurs problématiques. Et je crois que ce que j'ai découvert sur Mandeville était peu connu de l'école de Francfort. Il y a seul, je crois, Adorno n'en parle pas, ou pas beaucoup. Horkheimer en parle un peu, Horkheimer le connaît. Et il est extrêmement intéressé par ce que dit Mandeville, mais ça ne développe pas. Parce que le seul qui ait réussi, justement, ce nouage... des passions, c'est le début de notre entretien, hein, le nouage des passions dans le champ de l'économie, c'est-à-dire le nouage finalement de l'économie psychique et de l'économie politique, en passant évidemment par l'économie marchande et le développement des biens et des richesses, c'est Mandeville, c'est-à-dire c'est le fondateur, celui qui a été d'une certaine façon occulté. Il a été occulté très rapidement, Mandeville, parce que, bon, il a été occulté parce qu'on a brûlé ses livres sur la place de Paris, il a été en procès, parce que on a mis Adam Smith à la place de Mandeville en disant c'est lui le créateur de l'économie politique, c'est Mandeville on n'en parle pas, c'est un esprit licencieux, etc. Et puis le coup de grâce, ça a été quand même Max Weber. Dans la parution donc de l'éthique protestante en 1919 ce n'est plus les vices privés qui créent le bien public mais c'est l'ascétisme puritain des protestants donc là c'est une inversion complète de Mandeville. Il faut dire que Max Weber s'opposait à quelqu'un qui était lui aussi occulté, c'était Sonnenbach, Werner Sonnenbach, qui lui avait une perspective très proche de Mandeville, mais qui a été occulté. Donc, voilà, tout ce champ de Mandeville a été, d'une certaine façon, repoussé, occulté et a disparu de l'horizon.
Et par Lacan aussi, vous en parlez dans votre livre.
Lacan.
Vous vous étonnez qu'il ait pu ignorer qu'un homme si érudit ait pu.
Il y a une mention dans toute l'œuvre de Lacan sur. Sur Mandeville. Rien chez Derrida, rien chez tous nos penseurs de la déconstruction, rien chez Foucault. Alors que Foucault, dans son séminaire de 1977-78, Naissance de la biopolitique, travaille sur la naissance du néolibéralisme. Et il n'y a rien sur Mandeville, il n'y a pas une ligne sur Mandeville. Enfin, il y a une note insignifiante sur Mandeville. Alors même qu'il travaille, par exemple, sur Hayek, et que Hayek a fait une conférence à la British Academy sur le mastermind dont il faut tout reprendre, c'est Hayek qui dit ça en 1960, quelque chose comme ça, de Mandeville, il faut tout reprendre de Mandeville. Donc, Voilà, Mandeville est occulté par tout le monde. Donc, voilà, belle occasion pour essayer d'aller voir ce qu'il raconte. Et là, on trouve quelque chose de, je trouve, extraordinaire. C'est ce nouage, justement, de l'économie psychique et de l'économie politique. Donc, c'était d'une certaine façon ce que cherchait l'école de Francfort. Et c'est pour ça que je viens 50 ans après pour dire, écoutez, les amis, vous avez oublié quand même Mandeville. C'est pas de votre faute parce qu'il était bien occulté par tout le monde. Mais maintenant, c'est le temps, il faut s'y remettre, quoi. Voilà ce que j'essaie de faire.
Et aujourd'hui, en 2023, grâce à une conférence organisée par Philomania, puisque ce sera le thème de cette conférence, Grandeur et décadence de l'utopie capitaliste, il faut que je vous libère parce qu'elle va bientôt commencer cette conférence. Il y aurait encore plein de questions, hein. Je n'en ai fait que la moitié. Vous vous rendez compte? Allez, un moment, vous dites dans votre ouvrage, Baisse ton prochain, vous parlez qu'il faudrait décerner le prix du meilleur pervers mandevillien chaque année. Alors, par exemple, pour 2022, peut-être pas pour 2023, on va attendre la fin d'année, 2022, donnez-nous des noms. Alors, les lauréats.
Il faut que... je ne sais pas, c'est parce que je ne suis pas assez, moi, donc...
Alors, sur quels critères on pourrait décerner ces prix?
Ben justement, le critère mandevillien, c'est-à-dire celui qui, s'est pratiqué, des vices, qui tiennent à, donc, tout ce qu'on a mentionné. Avidité, luxure, train de vie dispendieux, tromperie, etc., etc. Et les présenter sous la forme d'une vertu. Donc, on serait dans l'adage mandevillien, dans la maxime mandevillienne. Comment les vices privés peuvent faire des vertus publiques. Voilà. C'est un travail à faire. Je ne veux pas le faire à la place du jury qui va se mettre en place un jour.
C'est un peu pour ça, d'ailleurs, qu'on parle d'optimisation fiscale.
Exactement, tout à fait. Nous sommes bien d'accord.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous.
Merci.
Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans.